Bonjour à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes contents de nous revoir encore. Nous sommes contents de voir encore parmi nous notre frère parfait qui est de retour. Nous bénissons le Seigneur parce que à chaque fois nous prions pour que le Seigneur et nous prions pour que le Seigneur garde nos personnes. Nous sommes contents de voir notre fils aussi, Ange Arrière, parmi nous aujourd'hui. Nous sommes contents de voir les triplés aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Notre sœur Olga, ça faisait un bon moment, mais nous sommes contents qu'elle soit parmi nous encore. Nous saluons les gens sur Zoom. J'ai vu famille Claudine. Famille Pasteur Nathan, famille Elise et Jeanne, il y a d'autres. Oui, Manon aussi, oui. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Et je sais que le temps que vous prenez de rester derrière les caméras, ce n'est pas un moment perdu. Ce n'est pas aussi un moment perdu pour les gens qui traversent vraiment dans la neige, même si on est véhiculé, mais c'est difficile vraiment de conduire dans la neige. Et ce n'est pas que vous venez peut-être pour chercher les choses visibles, mais le Seigneur vous réserve de bonnes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais juste commencer par là. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est un peu différent de ce que nous avons commencé depuis un moment. Oui, je voulais suivre le même déroulement, mais le même thème, mais c'est comme si le Seigneur vraiment m'a mis à cœur. Vous savez, quand nous, on a l'habitude de prêcher, des fois, on a beaucoup de. Comme des sujets qu'on a, on peut donner. Mais le moment vraiment de choisir, je me suis dit, c'est ça qui a pris place, une grande place à moi. J'ai dit, je vais aborder ce sujet. Alors, pour cela, je vais vous inviter à ouvrir vos livres, vos Bibles, bien sûr. Et je demanderai à Gisèle de nous faire une lecture. Ça va être un peu long, mais vous allez patienter. Je sais qu'elle lit bien et vite. 1 Samuel, chapitre 1, verset. Qui commence à partir du premier verset jusqu'à 20. 21.
Je lis la parole de Dieu. 1 Samuel 1, versets 2 à 21. Un homme nommé Elkana vivait à Ramathaïm Tsotsim, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il était fils de Yéroan et petit-fils d'Éliou, de la famille de Tohu, descendant de Trousse, un Népiphanite. Il avait épousé deux femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana se rendait de sa ville de Asilo pour y adorer l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et pour lui offrir des sacrifices. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, y officiaient comme prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il attribuait des parts de viande à sa femme Péninna et à tous ses enfants. Et il donnait une double part à Anne parce qu'il l'aimait, bien que le Seigneur l'ait empêché d'avoir des enfants. Sa rivale ne cessait de la vexer pour l'irriter contre Dieu de ce qu'il l'ait rendue stérile. Cela se reproduisait chaque année, toutes les fois qu'Anne se rendait au sanctuaire de l'Éternel, Pénina l'exaspérait. Alors Anne pleurait et restait sans manger. Elkana lui demandait: Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi restes-tu sans manger? Pourquoi es-tu si malheureuse? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? La prière d'Anne. Cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie y était assis sur son siège près de la porte. Très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Alors elle fit le vœu suivant: Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante et si tu ne donnes et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observait le mouvement de ses lèvres. Anne priait intérieurement, ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il l'interpella. Combien de temps encore veux-tu étaler ton ivresse? Va cuver ton vin ailleurs. Anne lui répondit: Non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre, je n'ai bu ni vin ni boisson alcoolisée, mais je suis très malheureuse et j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne me juge pas mal et ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur. Dans ce cas, lui dit Élie, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la requête que tu lui as adressée. Anne répondit, je me recommande à ta bienveillance. Puis elle s'en alla, se restaura et son visage fut différent. Le lendemain, de bon matin, Elkana et sa famille se prosternèrent devant l'Éternel. Puis ils rentrèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et l'Éternel intervint en sa faveur. Elle fut enceinte et au terme de sa grossesse, elle mit au monde un garçon auquel elle donna le nom de Samuel. Dieu a entendu, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. L'année suivante, Elkana se rendit de nouveau à Silo avec toute sa famille pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel pour accomplir le vœu qu'il avait fait. Amen.
Amen. Amen. Soyez bénis. C'est long, mais c'était important parce que je voudrais qu'au moins on comprenne le texte en général, le contexte. C'est vrai que je vais de temps en temps revenir à certains versets, mais pas tout en détail. Donc, c'était mieux alors de lire tout le texte. Comme ça, même si tu ne savais pas encore l'histoire, si tu n'avais pas encore lu cette histoire, tu puisses quand même avoir une idée. Alors, dans le message de ce matin, je m'adresse premièrement à moi-même, parce que depuis que je préparais, j'essaie de comprendre, j'essaie de me parler d'abord, et j'aimerais que ça soit pour nous aussi, pour toi, moi et toi, nous ici. Peut-être d'autres aussi qui vont écouter ultérieurement le message, mais d'abord que ça soit pour nous. Dans mon passé, ou bien ça vous est arrivé aussi, il y avait des moments où on écoutait une prédication ou dans le culte, et je dirais que c'est comme l'esprit mauvais. Et puis, le moment, le temps où on devrait s'approprier le message, c'est comme si on se disait, mais si on commençait à penser à d'autres personnes, on se disait même, mais si peut-être telle ou l'autre personne était là, vraiment, c'est comme si l'ennemi nous montrait que non, le message, ce n'est pas à toi, c'est à quelqu'un d'autre. C'est comme si ça m'arrivait vraiment, je ne peux pas vous mentir. Ah, bon, telle personne, si vraiment il allait être là aujourd'hui, le message aurait pu. Donc, ça, c'est mauvais et j'aimerais que vraiment le message soit adressé à moi et à nous tous qui sommes ici. Alors, c'est peut-être un thème. Est-ce que vous voyez là? Vous êtes capable de lire? Parce que je vois que c'est un peu noir, mais c'est pas grave. Je vais en même temps lire. Le thème, c'est un croyant, c'est lire. Ou bien un chrétien, c'est lire. Donc, c'est comme des mots qui ne devraient pas, malheureusement, cohabiter. Mais vous allez comprendre, nous allons comprendre comment, peut-être le pourquoi j'ai ainsi formulé le thème. Alors, dans mon introduction, je commence par quelque chose que nous tous nous connaissons. Oui, dans le mariage d'un homme et une femme, on s'entend à ce que de leur union naissent des enfants. Et si tel n'est pas le cas, oui, il y a un problème. Un problème quelque part. C'est-à-dire que l'un ou l'autre, ou les deux, sont malades. Et dans ce cas, l'intervention médicale est nécessaire, si aussi c'est possible, parce qu'il y a des cas où, comme nous allons le voir chez certaines personnalités bibliques, parce que c'était le Dieu qui avait peut-être causé la stérilité, même si on allait peut-être se faire soigner, consulter les médecins, ça ne pouvait pas marcher. Mais dans la vraie vie, c'est ça, quand on constate le problème, donc on consulte les médecins pour voir s'ils peuvent remédier le problème. Dans le cas des croyants, alors, leur union à Christ est censée donner des fruits. Ici, je voulais dire des nouveaux convertis. Mais si le résultat n'est pas obtenu, c'est là qu'on parlera d'un croyant ou un chrétien, c'est-à-dire. Alors, nous allons, comme je vous l'ai dit, nous allons regarder en détail ce sujet, en se basant toujours à cette histoire que nous avons, que je suis allé, qui se trouve dans Samuel, que maintenant, qui nous est familier, j'imagine, nous tous. Alors, l'histoire nous parle de cette femme, de cette famille, où la femme, l'homme avait deux femmes. Une était stérile. Il ne pouvait pas mettre au monde des enfants, mais l'autre pouvait quand même avoir des enfants et elle en avait. Et à chaque fois, comme c'était dans leur culture, leur coutume, ils prenaient le temps d'aller donner des offrandes à Dieu. L'histoire est longue, mais la Bible nous dit que le mari, Elkana, le mari de Anne, il donnait, il distribuait des sacrifices à sa femme qui avait des enfants, et à chaque enfant aussi, mais à l'autre femme qui était stérile, elle donnait le double. Il donnait le double. C'était comme pour au moins l'empêcher de penser trop, de l'empêcher de voir que peut-être elle est marginalisée, ça n'est pas considéré parce que son mari, peut-être elle n'a pas donné les enfants à son mari. Donc c'est comme ça que le mari pouvait au moins calmer la situation. Mais ça n'arrivait pas. La solution ne pouvait pas vraiment répondre aux besoins de la femme, de Anne. Comme toutes les femmes, Toutes les femmes, bien sûr. Aujourd'hui, peut-être, nous sommes dans le dernier temps. Peut-être que la façon dont nous comprenons une femme stérile aujourd'hui, c'est différent de l'époque de ces hommes de Dieu. La stérilité était quelque chose vraiment malheureux. C'était une honte. C'était une malédiction. Il n'y a aucune femme qui pouvait concevoir, non, qui ne pouvait vraiment tolérer ça. Parce que ni face à son mari, même dans la société, elle était marginalisée. Je dis parce qu'aujourd'hui, les gens même décident de ne plus avoir des enfants volontairement, sans problème. C'est pour cela que je vous dis, peut-être la perception des gens de l'époque avec nous autres, c'est un peu différent, mais nous allons comprendre dans le contexte biblique. Alors, mais aujourd'hui aussi, ce n'est pas tout le monde. Si une femme, une fille quitte sa famille pour aller se marier à un homme, et des fois, n'a pas l'intention d'avoir aussi une famille, des enfants, et qu'arriver là-bas, ça ne marche pas, c'est sûr qu'elle va sentir, elle va avoir le même problème qu'elle a. Parce que pour elle, l'objectif n'a pas été atteint. Elle voulait avoir des enfants, mais ça n'a pas arrivé. Alors, nous ne pouvons pas peut-être comprendre la douleur de cette femme. Mais les mamans qui ont eu des enfants, les hommes qui savent comment entrer chez toi fatigué et que tu vois les enfants courir, viennent te voir, papa, papa, c'est bon. C'est bon. Nous, on peut comprendre. Et si je vous donne un autre exemple, Sarah, la femme d'Abraham, elle ne pouvait jamais tolérer aussi ce fardeau. Elle avait eu ce problème aussi. Mais imaginez arriver à accepter au moins que son mari puisse coucher avec sa servante, mais au moins qu'elle soit appelée maman d'un enfant. Parce qu'à l'époque, l'enfant qui pouvait naître à une servante, toujours était donné à la femme, je dirais à la femme légale, si je pourrais le dire ainsi. Même si c'est la servante qu'il avait mise au monde, mais c'était à Sarah. C'est pour cela que pour elle, c'était un honneur d'avoir un enfant. Alors, le fardeau pesait sur elle, qu'elle ne pouvait pas patienter. Elle a accepté les choses normalement, hein, inconcevables. Imaginez que tu vas accepter ton mari ou bien ta femme de coucher avec elle. C'est vraiment, je ne comprends pas. Mais ça nous montre combien le fardeau était lourd. Comme j'ai dit dans l'introduction, pour des personnes qui n'arrivaient pas à avoir des enfants, une de ces deux personnes a un problème. Dans notre cas, la Bible nous dit de Anne, c'est elle qui avait bien sûr un problème. Mais j'ai essayé de sortir des réactions de Anne, parce que comme elle ne pouvait pas vraiment vivre avec ce fardeau, cette humiliation, cette honte, elle a réagi. Elle a réagi. Si vous lisez au verset 7, c'est la partie B, on ne va pas y aller. Mais la Bible nous dit que pendant qu'elle était là, dans le temple, elle pleurait. dans le même verset, pendant que les autres mangeaient, quand c'était le temps de manger, elle ne pouvait pas manger. Et son mari qui était là, il ne pouvait pas intervenir. Il ne pouvait pas intervenir parce que la madame était inconsolable. Parce que ce qu'elle voulait, c'est un enfant. Ce n'est pas des paroles, ce n'est pas peut-être des mots, comment dirais-je, des mots, des bons mots. Elle n'avait plus besoin de mots d'encouragement parce qu'elle était dépassée. Au verset 8, vous allez voir qu'elle était rendue au point, je dirais. La douleur était au point, je dirais, était au dernier échelon. La Bible nous parle aussi quand elle priait et que le sacrificateur la voit, c'est comme si elle était. Elle pense qu'elle a bu. Donc, c'est comme elle était en détresse. Donc, elle était mélangée. Elle était mélangée. Elle pleurait. Elle parlait. Des fois, donc, de loin, on pouvait le voir. Le voir la détresse qu'elle vivait. Ça, ce sont des réactions d'une personne stérile. La Bible nous parle aussi qu'elle pria longuement le Seigneur. Ce n'est pas comme nous, vous savez. Nous prions 2 heures, mais après 2 heures, on n'a plus envie. Si on nous dit de prier une semaine ou bien de rester 3 heures, on va dire que c'est long et le Seigneur n'a pas besoin que, il écoute même si on fait 1 minute. Oui, c'est vrai. Mais ça dépend de la douleur. Ça dépend de la douleur. Il y a des moments où tu peux passer. Je m'excuse. On nous accuse de raconter des histoires. Mais j'ai une amie. À cause de la douleur qu'elle avait, elle nous racontait qu'elle est restée à une place pendant 3 jours, ici au Canada. Hein. Pendant 3 jours, sans manger, sans se lever parce qu'il était, son problème pesait lourd. Je vais vous dire, elle était dans cette situation. Donc, elle se versait, donc, elle avait des fois, oui. C'est comme si quand nous venons devant le Seigneur, on n'a pas beaucoup de choses à dire. Parce que si on a mangé, si on a de quoi à nous habiller, si nos enfants sont à l'école, s'ils ne sont pas malades, on dit merci Seigneur. C'est assez. Mais quelqu'un qui a un problème, un vrai problème, il ne va pas dire ça seulement parce qu'il va raconter. C'est pour cela que les gens qui ont en Afrique, là, déjà prié, on pense qu'ils sont fous. Ou bien ils sont vraiment. Parce que tu vois, la personne, elle écrit. C'est maintenant, quand je disais ça, j'ai compris pourquoi. Parce que la personne qui est en détresse ne peut pas prier comme une personne aisée. Les prières sont différentes. C'est différent. On prie et puis on pense que vraiment, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais la personne, la douleur qu'elle sent, ce n'est pas la même chose que les autres nous le sentons. C'est ce qui s'est arrivé à la madame, à Anne. Elle a prié longuement. Je vais revenir à ces réactions. Parce que vous voyez, le thème, c'est incroyable, stérile. Je ne sais pas, moi, ça m'est pas encore arrivé de passer une journée en train de pleurer pour que les gens se convertissent. Ça m'est jamais arrivé. ou bien prier pour une personne vraiment qui te sent quelque chose dans ton cœur. Ce n'est pas arrivé. Mais c'est là où j'aimerais qu'on s'examine. On a encore un problème. C'est pas encore, ça ne pèse pas encore lourd sur nous. Je disais que la personne a beaucoup de choses à dire parce que Dieu n'avait pas demandé à Anne de lui donner un enfant. Dans la vraie vie, Dieu donnait des enfants aux mères et les mères pouvaient les garder chez eux. Mais imaginez, parce qu'elle était vraiment, elle essayait d'amadouer le Seigneur, essayait d'utiliser toutes les stratégies jusqu'à dire, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je vais vraiment te la donner. Mais à quoi bon? Bon, on peut se demander, elle voulait avoir un enfant, mais à cause de la douleur, elle dit, je peux aller l'avoir de temps en temps à l'église ou bien dans le temple, mais je vais le consacrer. Mais que moi, je sois maman, je sois appelée maman. C'est pour ça qu'elle est combattue. Ça, c'est au verset 11. Pour résumer le chemin, le cheminement de Anne, je dirais qu'elle a passé trois grandes étapes. On peut aussi développer, peut-être avoir d'autres. Mais vous allez voir que pour arriver à la solution de son problème, elle a passé à travers trois étapes. Et la première étape, c'est qu'elle a rien besoin. Elle a senti son désir. Elle a rien besoin. Si on n'a pas un besoin, c'est même difficile de prier. Deuxième étape, elle savait que nulle part ailleurs, elle pouvait aller trouver la solution, sauf devant Dieu. Elle a pris le temps de prier. Et par la suite, et je dirais dernière étape, vous savez, quand le sacrificateur lui a vu, c'est comme s'il lui dit, mais madame, vraiment, tu as exagéré. Venir sous comme ça dans le temple, tu as exagéré. Il faut jamais vraiment faire ça. Mais la madame a expliqué, a dit non, 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 mon Seigneur, ce n'est pas le cas. Et elle a fait. Le sacrificateur a dit, l'a béni pour avoir un enfant, parce qu'il a compris le pourquoi de ses pleurs et de sa détresse. La dernière étape, elle a été exaucée. Elle était stérile pendant plusieurs années, mais comme je vous ai dit, la solution était de se tourner vers le Seigneur. Lui qui peut transformer la stérilité en fécondité. Oui, ceci pourrait nous encourager que malgré des années de stérilité spirituelle, nous pouvons avoir des enfants dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Je pense que je ne cite personne. Parce que je vous ai dit, ça commence par moi et ça me parle fort. Ça pouvait nous encourager de voir comment Dieu répond. Et que malgré des années de stérilité, on peut avoir des enfants. Des enfants spirituels. Je ne juge pas que nous ne sommes pas des croyants. C'est ça, d'ailleurs, je disais que c'est des choses qui sont, c'est des mots qui sont normalement qu'on ne devrait pas coller, mais qu'on a mis ensemble. Un croyant stérile, Dieu l'aime aussi. Dieu l'aime. Mais il y a des choses qui ne peut jamais nous donner. Parce que Il ne peut pas nous donner la part qu'il va donner à quelqu'un qui a des enfants parce qu'on n'en a pas besoin. Mais il nous aime. Mon défi pour aujourd'hui, c'est par rapport à notre Église. Parce qu'un croyant stérile, des croyants stériles, ça conduit à une église ou bien à une communauté, à un ministère stérile. Et si un ministère est comme ça, j'ai l'impression que on n'est pas bien dans la mission. Parce que la mission, dans Matthieu 11, 28, il dit, allez, faire les disciples. Et les personnes à qui Jésus s'est adressé, ils ont fait, ils sont allés. Et vous savez ce qui s'est passé. Je ne veux pas, si vous voulez, aller dans les actes des apôtres. Ils sont partis. Les choses se sont réalisées. 28, merci. Pardon pour. Alors, les défis que nous avons en tant que chrétiens aujourd'hui, c'est de penser que c'est d'abord de ne jamais avoir ce besoin. Donc, la prière est pour soi. Comme on dit, Dieu pour tous, peut-être. Le problème, Anne a senti le désir d'avoir un enfant. C'est pour cela qu'il a pris une décision. Il a dit, non, je veux prier jusqu'à ce que le Seigneur m'exauce. Mais le défi pour nous, c'est qu'on est tranquille et on est bien. On n'est pas stressé, on n'est pas en détresse. Parce qu'on a. Ne pas avoir des enfants spirituels ne nous dérange pas. Non. Un autre défi, c'est qu'on pense que les autres le font. Ou bien que c'est le pasteur qui est censé d'amener les gens à Christ. Ce n'est pas vrai. Amener les gens à Christ, ce n'est pas un don. Ce n'est pas un don. Peut-être si tu me dis, moi je ne prophétise pas parce que ce n'est pas mon don, je veux comprendre. Mais amener, sauver les âmes, c'est une mission qui est donnée à un croyant d'une journée, je ne sais pas quel titre il a, à l'apôtre, je veux dire. Je ne crois pas au titre, mais je le dis parce que pour comprendre, jusqu'à une personne qui. Un autre défi. C'est qu'on se dit qu'on n'a pas assez de connaissances. On n'est pas bien équipé pour le faire. Ça, c'est un défi que la majorité nous avons. Donc, parce que ça prend des stratégies, ça prend. Qu'est-ce que je veux? Et quelque chose qui m'a étonné. Vous connaissez les. Si les réseaux sociaux là. Vous avez, je ne sais pas si je vais appeler mouvement ou des personnes. Ce jour-ci, il y en a beaucoup. Tu ouvres la YouTube ou n'importe quelle plateforme. Il y a des gens qui aident les gens à avoir la liberté financière. Vous allez ouvrir, vous allez dire, ah, vous savez. Moi, je travaillais de 9 à 5, et puis je n'arrivais pas à avoir de bons moments. Donc, ce qu'on souhaite là, hein, ce qu'on souhaite vivre chez nous, on aimerait avoir des moyens, rester chez nous, manger bien, sortir bien. Donc, il raconte toutes ces choses. J'ai eu quelqu'un, et puis c'est peut-être. Les financiers, là, c'est des pyramides comme des pyramides de Ponzi. Vous allez, si vous voulez, vous pouvez aller voir c'est quoi Ponzi ou bien c'est qui Ponzi ou bien les pyramides de Ponzi. Mais c'est une façon dont les gens gagnent de l'argent en invitant les autres. Donc, il y a quelqu'un qui a conçu à. Je ne sais pas, un système financier où il va te dire, voilà, si tu me donnes autant d'argent, je vais te donner après mon moment un tel montant, avec vraiment, avec un intérêt énorme. Et puis, il te dit, toi aussi, il faut aller chercher les autres pour voir. Et la pyramide, donc, il y a une personne d'abord, et puis là, ça, donc c'est sous forme pyramidale, et ça continue. Donc, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les gens viennent, donc c'est plus le point là, le boss qui gagne. Je le dis pourquoi? Ces gens-là, ils sont courageux. J'ai eu quelqu'un qui m'a parlé. D'habitude, il n'avait pas l'habitude de m'appeler. Mais il m'a parlé. Et le jour, il me dit, mais quand est-ce que tu seras disponible pour que je t'explique encore, pour que à un moment donné, je ne pouvais pas arriver à refuser. Bon, à moi, je ne voulais pas. Mais je ne voulais pas encore briser. Parce qu'il y avait vraiment envie. Alors je me suis dit, mais si les chrétiens étaient comme ça, on ne peut pas imaginer combien de hommes on peut gagner. Ouais, ils arrivent à convaincre les gens. Et si quelqu'un arrive à te convaincre pour sortir tes sous, vraiment, c'est à cœur d'évangéliser. Imaginez combien ça va porter des fruits. Je disais qu'on pense qu'on n'a pas assez de connaissances. Pourtant, tout ce qui nous enseigne là, ils ne sont pas finances. Ils n'ont pas été à l'école de finances, non. Non. Quelques mots seulement, viens, amène ça, tu vas avoir ça. Et dans le domaine spirituel en plus, qui est important, on n'a pas. Quand je préparais, j'ai compris une chose. On n'a pas besoin de sortir toute la Bible. On n'a pas besoin de dominer la personne par force. Ce que la Bible nous dit, ce que Jésus veut, c'est d'arriver à communiquer, à s'aimer. Et si tu s'aimes et que la graine ne produit pas, ben, on ne va pas te condamner. Peut-être. Ça peut ne pas produire suite aux intempéries, à la sécheresse. Donc, le semeur n'a que jeter la graine dans la terre. Et pour nous, dans le domaine spirituel, Jésus est là pour grandir, pour faire le reste. Mais nous, l'étape que nous devons franchir, que je dois franchir, c'est d'arriver à la personne et lui dire un mot. Même si tu dis, Jésus t'aime, il y a une madame, je voulais rencontrer, qui est à chaque fois déjà surprenant, mais pourquoi à chaque fois il dit, si il te voit, il dit, comment t'appelles-tu? Ah, Jésus t'aime. Peut-être des fois, moi, je trouve que c'est déjà surprenant, mais sur Jésus, au moins, on sait. On ne sait jamais si la personne arrive dans des moments difficiles. Peut-être qu'il peut se rappeler que quelqu'un lui a dit d'un certain homme, Jésus, qu'il aime. Peut-être qu'il peut vouloir faire le coup à cette personne. Donc, le défi, c'est que nous avons besoin de connaissances. Et je vais vous dire, peu importe la connaissance, peu importe les études que vous allez avoir en théologie, vous n'allez pas convaincre la personne. Mais nous avons le devoir de parler. Et le reste, et nous allons peut-être plus tard demander à. J'ai fait ma part. Toi, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais qu'il nous donnera la solution. Et l'autre, quelque chose encore, c'est que, oui, au Québec surtout, on pense que tout le monde est croyant. Tout le monde a sa façon de comprendre Dieu. Et ça nous empêche de vraiment arriver vers les personnes. Et aussi, la timidité. Alors, pour terminer, la seule façon que je vois pour sortir de cette stérilité spirituelle, c'est d'avoir ce désir. Et de prier, de pleurer pour les gens qui périssent, d'avoir cette envie, d'avoir vraiment un fardeau, même si ça ne pèse pas sur toi, c'est pas sur toi, mais pleurer au moins aux jeunes tu périsses. Pleurer aux gens, tu ne connais pas, tu méprises encore la parole de Dieu. Et d'arriver, et la combinaison de toutes ces choses, la prière et arriver les personnes, ça va engendrer quelque chose. Ça va agrandir, renforcer. Et sachez que les récompenses sont nombreuses. Et parfait, est-ce que tu peux nous lire Daniel 12, 2 à 3 pour terminer? Daniel 12, 2 à 3.
Daniel 12, 2 à 3. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la sorte se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen.
Amen. Amen. C'est la dernière partie qui me réjouit. La Bible dit à tous qui vont apporter la multitude, à sauver plusieurs âmes, ils brilleront comme les étoiles et à perpétuité. Amen. Est-ce que nous souhaitons briller aussi au ciel? C'est un devoir d'aller chercher des âmes. D'avoir, oui, j'imagine, oui, aller au ciel, c'est bien, mais aller seul. Vous savez, quand vous allez dans un bon restaurant, vous mangez vraiment, vous avez envie de dire à d'autres, hey, au travail, à l'école, vous allez dire, ah, tu sais, quel est le resto? Donc, vous avez envie d'amener beaucoup, beaucoup plus de monde. Et pourtant, on gagne, on ne te donne pas la commission. Mais à l'église, c'est autre chose. Et pourtant, la Bible nous dit que nous allons briller. Nous allons rayonner. Déjà, tu auras beaucoup plus de monde derrière eux. Ils vont briller. Ils vont rayonner. Donc, ils vont avoir comme de l'encre, des grades, si je veux. Oui. Alors, c'est quelque chose que j'aimerais aussi avoir. Les enfants, déjà que j'ai amené au Seigneur, qui vont avoir la vie éternelle, parce que j'ai aussi, j'ai participé. Et moi, j'ai dit, je vais pas, on va pas rire, mais si vous lisez dans Acte 2, verset 47, ça nous montre comment la première église fonctionnait. Et la Bible dit à ce verset-là qu'à chaque jour, le Seigneur augmentait le nombre. Le Seigneur augmentait le nombre. Donc, pour terminer, je vais nous dire que nous sommes dans la misère, nous sommes stériles. Je suis stérile, tu es stérile, et l'église est stérile, la communauté de Séal est stérile. Mais il faut, c'est quelque chose qu'il faut d'abord comprendre. Comme Anne a compris son problème et il a pris, il a fait un pas. Nous aussi, c'est à nous vraiment de voir ce problème et de l'aborder, de le voir en face. Et je sais que avec la volonté que nous allons avoir, Dieu est capable de nous donner des enfants spirituels. Amen. Une dernière chose que je vois dans mes points que j'avais marqués, vous allez voir que les gens ne veulent pas faire des enfants, mais ils veulent vivre avec les gens qui ont fait des enfants. Vous comprenez ce que je veux dire? Les gens viennent à l'église Et ils vont dire, ah non, cette église, il y a combien de personnes? Il y a deux ou trois personnes. Comment je veux? Non, je ne peux pas rester. Mais tu es stérile. Tu es censé d'avoir des enfants. Et moi, avoir des enfants, et on grandit. Mais la solution, vous savez, la personne va aller avec sa stérilité, va aller dans, comment on appelle, méga church. Et va se réjouir là-bas, et va dire que oui. On est dans une belle église, mais t'es stérile. Je suis stérile. Donc, c'est mon dernier point pour vous dire que nous devons avoir des enfants spirituels ici. On n'a pas besoin de quitter ici. Parce que si tu quittes ici, mais le même problème va te suivre. Peut-être tu vas avoir l'air de changer, mais tu n'as rien changé. Je ne juge personne. Si je vous juge, je me juge moi-même. Mais c'est pour vous dire que nous sommes face à un problème. Ça me fait très, très, très mal d'avoir, de nous dire que l'Église, ça fait 20 ans, même plus, 20 ans, 40 ans. Cette Église-là me dépasse de l'âge. Vous pouvez compléter. Mon sourire, mon sujet de prière, ce que j'ai voulu, et ça commence par moi. Pendant que je prépare, j'ai dit, je vais refaire, je vais refaire, je vais essayer. Je vais faire ma part. Si Dieu ne fait pas le reste, j'aurai un cœur tranquille. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à amener une ou plusieurs personnes à Jésus au cours de cette année 2025. Moi, c'est ma prière. Si vous voulez moi, se joindre à moi pour prier comme ça et aller faire, aller parler seulement. Je ne veux pas dire que tu vas forcer la personne, même s'il va ailleurs, ou bien même s'il reçoit Jésus, mais il va ailleurs. C'est notre devoir. Donc, si vous voulez vous rejoindre à moi, j'aimerais qu'on se lève et nous allons prier. Mais moi, je vais prier et je vais le faire. Je vais faire mon mieux d'approcher une personne, même plusieurs, si Dieu me le permet. Mais au cours de cette année, je vais parler à une personne, je vais faire quelque chose, et le reste, ça va être pour Dieu. Alors, si chacun parmi nous prenne cette décision, et nous savons que le Seigneur va nous accompagner dans ça, vous allez avoir des changements. Prions. Père éternel, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Parce qu'à chaque fois que tu nous appelles, c'est pour nous parler, nous donner des messages. C'est pour nous avertir, Seigneur. Parce que tu vois que nous sommes dans le danger et tu ne veux pas que nous restions pour périr, mais tu veux que nous ayons la vie éternelle. Père, je te prie avec cette assemblée. Seigneur, partant de l'exemple de la stérilité de Anne et de voir, Seigneur, les étapes qu'il y a à faire, nous aussi nous prions. Je prie personnellement, Seigneur. Oui, je pouvais pas faire des choses, je ne pouvais pas approcher les gens comme je le souhaitais. Mais cette fois-ci, je me décide, Seigneur. Sois derrière moi. Comme tu as dit, tu vas nous accompagner, tu seras avec nous dès maintenant jusqu'à la fin du monde. Seigneur, j'aimerais que tu m'accompagnes dans l'accomplissement de ta mission, de la mission que tu m'as donnée. Je prie, Seigneur, que chaque personne ici, tu sais le défi de tout un chacun. Peut-être il y en a qui se disent qu'ils ne sont pas éloquents, que Seigneur, ils n'ont pas assez de connaissances. Mais toi, tu as toutes ces choses. Et je me rappelle quand Moïse, Seigneur, voulait s'excuser devant toi, à chaque fois tu trouvais la solution. Tu lui avais dit, je vais te donner quelqu'un avec toi, tu es éloquent. Nous savons que le Saint-Esprit va nous accompagner. Seigneur, que chacun prenne ça comme son fardeau qui pèse sur lui et qui veut s'en débarrasser. Nous voulons que, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, Nous nous mettons à mission pour gagner des âmes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.